Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis. Nova.
Quand même, ça te marque à vie quand il y a eu de telles injonctions au silence. Tu peux pas... avoir un rapport à la parole qui est naturel après. D'ailleurs, moi, tu le sais, quelqu'un de plutôt très bavard, et on a des grandes conversations, et j'adore parler, et c'est une de mes plus grandes joies dans la vie, justement, parce que je trouve que... Mais cette parole, quand elle est libre, quand elle est légère, et ce qui est différent de quand elle est enregistrée, ou quand tout d'un coup, on va fixer une pensée, alors que c'est des choses plus complexes, et que... Bon. Mais par contre, la parole, quand elle vole dans la pièce, quoi, et que c'est une danse, et que c'est quelque chose à deux, c'est une des plus belles manières d'être au monde. De partager ça. Mais ça, je l'ai aussi parce que justement, je connais la valeur de la parole pour en avoir été privé.
C'est une amitié qui a commencé comme ça, il y a quelques années, par de grandes conversations. On était tous les deux journalistes, on travaillait pas dans la même rédaction mais dans le même immeuble, et on s'est mis à faire des pauses clopes, et puis des pauses déj, et puis aujourd'hui, on est arrivé à 4 ou 5 heures de conversation téléphonique par semaine. Une de nos obsessions communes, c'est la parole et le silence. Elle irrigue son premier roman. Hugo Lindenberg a 41 ans et il vient de publier « Un jour, ce sera vide », l'histoire d'un petit garçon sur une plage un été qui rencontre un autre petit garçon, un qu'il rêverait d'être, plus léger, insouciant, un qui connaît le bonheur. Le narrateur, lui, est contaminé par les silences qui courent dans sa famille. Des silences qui remontent à la guerre, à la Shoah, et qui ensevelissent tout, jusqu'à la folie de sa tante, qui écoute Mike Brandt en fumant des cigarillos, enfermée dans une chambre pleine de souvenirs. Ce narrateur, qui observe les familles heureuses sur la plage pour analyser la consistance du bonheur, il dit « J'aurais bu leur sang si ça m'avait permis de comprendre ce que c'est que d'avoir une famille comme les autres ». Je me suis rendue chez Hugo Lindenberg pour parler de ce roman et de ce silence qui rend fou. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Est-ce que tu te souviens de la manière dont ta mère et dont ton père te parlaient quand tu étais petit ?
Ma mère, je ne l'ai pas connue longtemps, mais quand j'étais petit, je me souviens d'une parole libre et joyeuse. Mais après, très vite, on habitait chez mon père. Et là, il n'y avait pas de parole. Je me souviens surtout d'immenses plages de silence, quoi, où il fallait interpréter les quelques mots prononcés. Globalement, à la maison, on ne se parlait pas.
C'était quoi les quelques mots prononcés ? C'était de quel ordre ?
Ou c'était des paroles pratiques, ou c'était pour parler de sujets qui étaient complètement extérieurs et qui avaient trait, oui, plutôt aux idées. Mais sinon, les gens lisaient. Moi, en fait, je viens d'une famille où la parole est quelque chose de très compliqué, je pense parce que c'est une famille de survivants de la Shoah, et que leur histoire a été traversée par des drames et qu'ils ont voulu ensevelir sous des silences. Mais du coup, en voulant taire des choses, finalement, le silence s'est installé partout. Et du coup, plus rien n'était nommé. Rien n'était dit, on racontait rien, ou alors c'était des blocs comme ça, comme presque des contes et des histoires. Il y avait des bouts, l'arrivée en France, le passage de la frontière, quand ils ont fui.
Parce qu'ils venaient de Pologne.
Oui, là, mes grands-parents maternels, ils venaient de Pologne, mais c'était la même chose de l'autre côté, où c'était des Juifs de Hongrie. Mais où on sent qu'il y avait comme ça des récits qui étaient, des petits morceaux de récits qui étaient construits, mais tout le reste, c'était vraiment le silence, on parlait de rien. Et j'étais toujours surpris quand j'allais chez les autres de voir comment la parole circulait, mais même sur des choses anodines, mais c'était même de nommer les objets, de nommer les choses, de parler en faisant la cuisine. Et du coup, je voulais raconter cet émerveillement de ce petit garçon qui vient d'un monde de silence quand il arrive dans une famille où on parle, et que ça déjà en soi, ça réveille en lui quelque chose de très fort.
Donc dans les différentes couches de silence dans lesquelles t'as grandi, il y avait ta judéité même, le fait même d'être juif, c'était pas un truc qui était dit chez toi.
Ça existait, mais on m'en a jamais parlé. Et jamais personne, pareil, n'a dit qu'on était juif. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert seul. Et eux-mêmes, de toute façon, du côté de ma mère, par exemple, ça avait été tenu secret jusqu'à la fin des années 70. Et du côté de mon père, c'était pas du tout un secret, mais pourtant, on n'en parlait pas. Il nous a jamais dit qu'on était juif, on n'a jamais, j'ai pas fait bar mitzvah ou de choses comme ça. Il a fallu découvrir petit à petit que j'étais juif. Mais c'est d'abord les autres qui m'ont désigné comme juif, avant que... et qui m'ont permis de comprendre que je l'étais.
Comment ?
Avec des remarques de style « Ah, c'est marrant, t'es paradin pour un juif ». Et tout à coup, je me disais, mais ah bon, mais comment ils savent que je suis juif? Et en fait, c'était par mon famille. Ou au contraire, des choses que j'ai compris plus tard, des juifs qui me disaient des choses. Bonne année, par exemple, à des moments de l'année. Et moi, je ne comprenais pas du tout pourquoi, de quoi ils me parlaient. Même une fois, quelqu'un m'avait dit, ah, demain, c'est Rosh Hashanah. Et moi, je dis, quoi, un Rosh Hashanah? Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais pour eux, c'était évident que j'étais juif. Et du coup, je devais savoir. J'ai mis du temps à comprendre. Chez moi, il y avait des objets. Je voyais bien que c'était des objets, quoi, des chandeliers, des étoiles de David, des objets que je ne voyais pas chez les autres enfants. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. Je comprenais intuitivement qu'il y avait quelque chose, que ça appartenait à notre histoire. Mais on ne m'avait jamais dit « Ah, ben ça, c'est un chandelier, voilà pourquoi on l'utilise, c'est pour Pessar. » Donc, il y avait ces espèces de signes étranges chez moi.
Et tu n'étais pas autorisé à poser des questions sur ces objets, sur cette religion ?
De manière générale, je n'étais pas autorisé à poser des questions. Parce que les questions, c'était dangereux. On savait qu'on allait en terrain miné, puisqu'il y avait les sujets dont on ne pouvait pas parler.
Et il y a aussi un silence autour de la folie dans le roman, parce qu'il y a ce personnage de la tante qui est folle, et il y a un silence autour d'elle.
Oui, mais justement, elle est folle du silence. En tout cas, c'est ce que j'ai imaginé dans le roman, mais précisément, elle avait été rendue folle par les silences. C'était toute cette folie qui avait été refoulée, qui tout d'un coup s'incarnait en elle. Toute la violence des gens autour d'elle qui se taisaient.
Pour toi, c'est le silence qui rend fou ?
C'est ce qu'on retient qui rend fou. Ouais, le silence, c'est quelque chose qu'on retient, oui, je pense.
Le silence dans le roman autour de la Shoah et le silence autour de la folie sont liés ?
Oui, parce que ce personnage de la tante, pour expliquer sa folie, il aurait fallu expliquer la Shoah. Il aurait fallu expliquer la guerre et ce qui a suivi. Et il aurait fallu justement commencer une conversation. Or, je pense que pour ces gens-là, toutes ces conversations n'étaient pas possibles à mener.
Pour toi, ce silence de douleur des rescapés de la Shoah, il continue de se transmettre de génération en génération, parce que tu es la troisième génération, et ce silence, manifestement, il a une place immense dans ta construction, et en l'occurrence dans le livre.
Oui, oui, je pense que de toute façon, tant que le silence perdure, la maladie mentale se propage dans les familles, et que le seul moyen de l'arrêter, c'est justement de reprendre la parole.
Mais ce qui paraît étonnant peut-être d'un regard extérieur, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a encore du silence sur la Shoah. Il y a eu beaucoup d'œuvres dans nos vies, pour notre génération en tout cas, sur tout ça. On n'a pas l'impression qu'il y a un silence si grand.
Je me suis mal exprimé alors, parce qu'il n'y avait pas de silence de ce côté-là. On était abreuvés, au contraire, de documentaires, de livres. Et j'ai toujours vécu dans ces récits des autres. Et même mon père était historien, il travaillait sur ces questions-là. Donc la Shoah en tant que phénomène historique, ou la parole des rescapés, tant que c'était extérieur à la famille, c'était quelque chose de connu et puis de partagé. Et ça, c'était des choses dont on pouvait parler. Il n'y avait pas de tabou sur la Shoah. Mais l'histoire personnelle, c'est là où c'était compliqué, parce qu'on n'est plus dans la Shoah, on est dans des traumas personnels. Alors que ce soit mes grands-parents, il y avait des choses dont ils ne parlaient pas, même si eux... Enfin, il y avait des choses dont ils parlaient, mais c'était quand même des récits très figés, et puis sur des moments précis. Mais c'était presque le silence. Il n'était pas forcément pour eux tombé sur la guerre précisément. Il était tombé sur tout. Et par exemple, chez mes grands-parents maternels, sur le fait d'être juif. Mais même si c'était quelque chose chez eux qui dépassait même ce cadre-là, ils étaient contre la religion et voilà, ils n'avaient pas envie de se définir comme ça. Mais par exemple, mon père a probablement été un enfant caché pendant la guerre, enfin, même j'en suis sûr, mais ça c'est quelque chose dont il n'a jamais pu parler. Donc il y a une vraie différence pour moi entre la parole sur la Shoah et la parole sur sa propre histoire.
Il semble y avoir un paradoxe entre eux, non ?
Je sais pas, quand je vois par exemple Alice Miller qui a écrit Le drame de l'enfant doué. Je te l'avais offert, Le drame de l'enfant doué, non ? Non, mais tu l'as lu ?
Non.
Mais si ?
Non.
Non ? Bon. Et c'est tout un livre pour raconter que c'est un énorme best-seller, c'est encore aujourd'hui un énorme best-seller de psycho, où elle raconte à quel point on peut pas se réaliser tant qu'on n'a pas dit sa propre vérité, qu'il faut être dans la parole, nanana. Et après, son fils, des années après, écrit Le vrai drame de l'enfant doué, de l'enfant, oui, où il raconte que sa mère a caché toute sa vie qu'elle avait été justement une enfant cachée pendant la guerre. Je veux dire, c'est une chose de parler des choses et c'est une autre de parler de ses traumas, je pense, vraiment. Et du coup, certainement que l'ouverture de la parole, enfin, certainement que beaucoup de gens maintenant ont témoigné, mais ça n'empêche pas que le silence, c'est une maladie qui continue à se propager dans les familles qui sont infectées.
Est-ce qu'il y a des gens à qui tu parlais, d'autres adultes qui étaient dans ta vie ou des copains à l'école ? Est-ce qu'il y avait un endroit où tu te sentais à l'aise, en confiance peut-être, pour parler ?
J'aime pas l'image de l'oignon qu'on utilise toujours, mais il y avait comme des couches de paroles, c'est-à-dire qu'il y avait des gens avec qui je parlais librement, mais avec eux, il y avait beaucoup de sujets que j'abordais pas. Parce que, avec les gens de mon âge, avec les autres enfants, par exemple, je considérais qu'il y avait les choses liées à mon histoire familiale, justement, par exemple, à la folie de ma tante, ou à la mort de ma mère, ou... à l'histoire de mes grands-parents, c'était pas des sujets qu'on pouvait aborder avec eux, parce que c'était pas des sujets ou qui les intéressaient, ou qu'ils étaient en mesure de comprendre. Et avec ma famille, j'avais une parole plus libre, mais, je veux dire, avec mes oncles et tantes, mais quand même toujours dans des mensonges et dans des tabous, notamment autour de la mort de ma mère.
C'était quoi les mensonges ? Ils faisaient semblant que la réalité était autre chose ?
C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais dit qu'elle s'était suicidée.
Et comment tu l'as appris ?
En lisant des choses qui ne m'étaient pas adressées.
Comment il t'a impacté, toi, ce silence ?
Déjà, il a rendu ma construction difficile, parce qu'elle s'est faite à tâtons, dans le noir, sur beaucoup de choses. Et aussi, il m'a rendu très perméable aux injonctions austères. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à affronter les injonctions austères venant des autres.
Comme quoi, par exemple ?
Le conflit, quoi. Prendre la parole, aller contre la parole, affronter une conversation qui fait chaud au visage, quoi. C'est difficile, parce qu'on m'a appris à me taire et à accepter... les zones de silence des autres.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 41 ans, tu te dis que tu as le droit d'écrire ce roman, même si c'est une fiction, ou que tu as le droit de plonger dans ces souvenirs-là ?
Non, mais j'ai toujours considéré que j'avais le droit. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais peut-être parce que j'en ai fini avec l'enfance. Je veux dire, j'en suis sorti définitivement, quoi. Je suis vieux. Enfin, à 40 ans. Non, mais je veux dire, il y a un truc quand même d'éloignement maintenant. Mais c'est pas pour sortir du silence que j'écris ou que j'ai fait ce livre. C'est pour partager ça. Cette expérience de l'enfance, quoi. Parce que même si je considère. Enfin, même si. Moi, j'ai l'impression que mon enfance était particulièrement silencieuse, les enfants sont quand même. Bordé de silence, quoi. Il y a beaucoup de silence dans la vie d'un enfant, quand même. Je l'ai mis dans le livre, mais je me souviens que quand j'étais ado, je faisais du babysitting. Et puis, il y avait ce petit garçon que je gardais, et puis un soir, il m'avait dit, oh là là, j'ai un terrible secret, c'est horrible, il avait à moitié les larmes aux yeux, bon, et j'étais vraiment très inquiet. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et puis là, il sort de derrière le lit, un espèce de petit éléphant en porcelaine hideux, cassé en trois. Et il me dit, c'est maman, l'éléphant qu'elle m'a offert, je l'ai cassé, ça fait un mois et demi que c'est derrière mon lit. Voilà. Je veux dire, il n'y avait rien. Mais pour lui, c'était un drame.
Est-ce que tu aurais voulu qu'on te parle davantage, toi ?
Ah oui, ça aurait changé ma vie. Non, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça aurait changé ma vie. Oui, j'aurais vraiment aimé... C'était vrai, enfin... Il n'y a qu'un pas entre être un enfant seul et être un aliéné.
Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malo William. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux, et puis dans la vie aussi, à laisser des commentaires sur Apple Podcasts, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et vous pouvez m'écrire sur Instagram, @chapudelot, ou à hello@louismedia.com. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.